Bonjour à toutes et à tous. Enfin, on s'est déjà, pour certains, croisés ce matin ou discuté un petit peu à midi. Et ça m'a donné aussi plein de pistes par rapport à ce travail. Simplement une précision, un élément par rapport à ce que disait Stéphane Kuss, c'est que je travaille effectivement d'une part sur les questions de discrimination et un petit peu plus largement à l'école, dans le champ scolaire, sur les questions de racisme et d'ethnicisation. Et je travaille aussi sur un autre versant qui, en apparence, n'a pas grand lien, qui est la question de l'interinstitutionnalité, de partenariat, de la coopération, du travail en réseau, voilà, entre institutions dans les politiques publiques. Et en apparence, ça n'a pas de lien. Et dans ma construction intellectuelle et pratique, ça en a, à mon avis, beaucoup. Sauf que moi, j'étais amené à faire mon travail comme si je dissociais les deux. Pour vous donner un exemple qui me paraît assez significatif, je peux être invité à parler du partenariat à des gens qui ne connaissent pas du tout mes travaux sur la discrimination, et réciproquement. Et ça va même plus loin, c'est que je peux, ayant travaillé par exemple sur la question du partenariat de l'inter-institutionnalité, je me suis retrouvé dans des colloques, j'avais travaillé sur l'articulation entre RMI et psychiatrie à une époque, il y a une quinzaine, une vingtaine d'années, et j'étais invité dans les colloques de travailleurs sociaux en tant que spécialiste du champ de médical, et dans les colloques des professionnels de la santé en tant que spécialiste du champ social. Et j'ai l'impression de poursuivre un petit peu cette vieille histoire, si vous voulez, c'est-à-dire d'avoir un grand intérêt à travailler à l'interface, à travailler à partir de ce qui était dit et formulé un petit peu ce matin autour du rôle intermédiaire, du travail intermédiaire, c'est-à-dire de cette position très particulière qui nous amène en tant que professionnel, et là je pense qu'il y a à étendre bien au-delà de ma propre expérience, dans un développement du travail, dans un devenir du travail, très largement un travail intermédiaire, c'est-à-dire un travail dans lequel nous sommes sans cesse occupés à essayer d'articuler des choses, à essayer de faire passer, à essayer de traduire une réalité dans une autre, etc. Alors, je prends ce détour un petit peu long, mais tout ça pour signifier que je me retrouve vraiment, là pour le coup, avec cette demande de travailler sur les rapports de pouvoir, dans une demande qui me remet dans cette situation intermédiaire. Et la première chose que j'éprouve, c'est que c'est une situation très inconfortable, a priori. Voilà. Très inconfortable pour moi, et en même temps très intéressant. Hein, cette part de mise en danger me semble assez intéressante, c'est-à-dire d'essayer de penser ou de ramener quelque chose par rapport à la question des rapports de pouvoir, qui pour ma part traverse et travaille ces deux pôles de réflexion que je peux avoir sur la question du racisme, de la discrimination d'une part, sur la question de la coopération d'autre part. Et pourtant, la première image qu'on en a, c'est qu'on a là affaire à des figures peut-être même antagoniques, hein, très très différente entre la coopération où on serait tous ensemble, hein, si je reprends un peu les mots du pouvoir, où on serait tous ensemble à faire quelque chose, à faire ensemble, et les mots de la discrimination où on serait dans une logique au contraire de la polarisation, de la séparation. Je voudrais montrer que ces questions sont en fait relativement liées, hein, à partir du moment où on travaille les questions du pouvoir. Alors pour ça, ma proposition pour cet après-midi, enfin pour mon propre propos, serait d'abord d'attacher un peu d'importance au concept. C'est-à-dire de se prendre un peu de temps, de se dire qu'est-ce qu'on dit quand on dit pouvoir, qu'est-ce qu'on dit quand on dit rapport de pouvoir ou rapports sociaux, qu'est-ce qui va venir derrière, quand on va parler de conflit, quand on va parler de consensus, quand on va parler de problème, etc. Hein, tout un certain nombre de mots qui sont liés à ce champ de réflexion. Je me proposerais de prendre un petit peu de temps pour se mettre d'accord, au moins pouvoir partager un certain nombre d'éléments de repère sur ça, et dans un deuxième temps de passer en revue, c'est un petit peu vite dit, mais voilà, de pointer plutôt un certain nombre de grands rapports de pouvoir et ou de rapports sociaux qui traversent, qui travaillent, qui structurent l'école et l'institution scolaire ou le système scolaire. Voilà. Mon invitation générale, si vous voulez, serait de dire... je pense qu'il peut nous être très très utile de penser le pouvoir dans nos situations de travail, de penser les relations et les rapports de pouvoir dans nos situations de travail. D'abord, je pense que ça peut nous éclairer, nous aider à comprendre beaucoup de situations qu'on vit, qu'on rencontre. Et à les comprendre, avec ce qu'elles disent effectivement du pouvoir, par rapport à des modes d'explication différents qu'on peut avoir plus habituellement. Et la deuxième chose, c'est-à-dire au-delà de cette utilité pour comprendre, il me semble que on a grandement besoin de pouvoir agir sur ces mécanismes-là. C'est du coup de penser des formes de régulation, des formes d'action, des formes de prise en compte finalement de ces rapports-là dans une institution qui a quand même un petit peu de mal à les reconnaître, c'est un euphémisme, et qui est plutôt sur un discours de la pacification, du consensus, du vivre ensemble, etc. Voilà. Donc c'est aussi cette contradiction, hein, qui, d'une certaine manière, qui va traverser mon propos, cette contradiction, cette difficulté à parler, à reconnaître, à travailler finalement, cette dimension qui est pourtant omniprésente dans omniprésente et absolument structurante du fonctionnement même de l'institution. Peut-être que je ramènerai à la différence d'Anthony Taillefer ce matin, peut-être que je ramènerai de temps en temps quelques exemples, mais je suis assez sensible au fait qu'un exemple, ça n'est pas forcément une continuité pédagogique du propos théorique, c'est l'appel à un autre mode de raisonnement intellectuel. Et ma proposition serait peut-être dans un premier temps, peut-être je serais plus à ce niveau un petit peu des mots, de la pensée, de ce qu'ils veulent dire, et puis dans notre discussion qu'on essaye de le traduire. Donc en vous invitant peut-être plutôt à dire, bah tiens, ces concepts, ces mots, ces questions qu'on soulève, comment elles font sens? Est-ce qu'elles font sens pour les uns pour les autres? Est-ce qu'elles nous font penser à des situations, effectivement, dans lesquelles on pourrait ramener ces interrogations, ces grilles de lecture? Voilà, un clin d'œil particulier de notre discussion à midi. Voilà, on était exactement en plein dedans tout de suite, voilà, dans cette question-là. C'est plutôt une invitation à faire émerger ces situations pour pouvoir les discuter, les travailler, les réfléchir ensemble. Premier élément, c'est on a une difficulté assez générale quand on pose la question du pouvoir, c'est que on en a une idée un petit peu générale qui se diffuse et surtout qui est très présente dans nos manières d'en parler généralement, c'est qu'on considère que le pouvoir est une chose. Et que le pouvoir est une chose qui serait la propriété de certains. Les mots, hein, prendre le pouvoir, avoir du pouvoir, concentrer le pouvoir, nous parlent de ça. C'est-à-dire comme si le pouvoir était de la propriété de certains, et comme si changer les rapports de pouvoir nécessitait que d'autres prennent le pouvoir, que d'autres se l'approprient. Ce modèle-là est encore très présent, c'est la rhétorique incessante des partis politiques, c'est-à-dire qu'on comprend bien que certains univers sociaux, comme celui de la représentation institutionnelle, fonctionnent sur cette idée du pouvoir-là, sur cette image-là du pouvoir, qui serait une espèce de propriété qu'on pourrait prendre en s'appropriant le lieu du pouvoir. Je ne sais pas quelle est votre expérience en tant que chef d'établissement, si vous êtes chef d'établissement ou en tant que chef de quelque chose, si vous êtes chef de quelque chose, voilà, enfin, c'est quand on arrive dans le lieu que tout le monde dit comme le lieu de pouvoir, je ne sais pas ce qu'on a comme propriété. Et je ne sais pas de quoi on dispose là qui nous permettrait magiquement de résoudre les problèmes qu'on n'a pas pu résoudre ailleurs. Il me semble qu'il faut prendre très très au sérieux cette expérience-là. C'est que quand on va dans les lieux, quand on arrive dans les lieux qui sont montrés comme le lieu du pouvoir, ben on se sent souvent un peu nu, un peu seul, un peu en désespérance peut-être, parce que il n'y a pas dans ce lieu ce qu'on dit qu'il y a. En fait, il n'y a pas de pouvoir. Et c'est pas parce qu'il n'y a pas de pouvoir parce que il est parti ailleurs, ou il n'est pas, on nous envoie dans un lieu où il n'est pas. C'est parce que je crois fondamentalement que le pouvoir n'est pas de cette nature-là. Il n'est pas une chose. Et donc il n'est pas lié, il n'est pas plutôt dans un lieu. Il est lié à des lieux, ça oui. Mais il me semble voilà qu'il est nécessaire d'amener cette première inflexion. On va avoir les mêmes choses dans tous les discours ou la réflexion sur l'autorité. Voilà. En avoir ou pas. Et en fait, on va y revenir tout à l'heure, mais en avoir ou pas, c'est aussi l'expression qu'on a pour dire on a des couilles ou on n'a pas de couilles. C'est-à-dire c'est une expression extrêmement sexuée. Et on va y revenir derrière. Les questions même du pouvoir, etc., sont liées à des représentations des rapports sociaux et à la distribution des rôles sociaux de sexe, par exemple. Donc, lié à cette propriété, on voit bien que si c'est une propriété, se pose tout de suite la question, et c'est une question du pouvoir, si c'était une propriété, de qui est-ce que ça peut être la propriété ? Et là, on a aussi des réponses qui viennent tout de suite derrière, qui est un discours officiel d'État, qui dit c'est la propriété du peuple, et qui en même temps ne cesse, à travers le jeu dit de la représentation, de déjouer cette idée en disant finalement ce serait réapproprié par autrui. Donc tout ça nous parle bien effectivement des relations de pouvoir, mais il me semble qu'on est mal outillé si on le pense comme une chose. Ce que je voudrais dire donc en premier abord, c'est que le pouvoir n'a pas d'autre matérialité, n'a pas d'autres dimensions concrètes, pour le dire comme ça, au départ, pas d'autre matérialité que la relation, que les relations. Le pouvoir instaure un rapport, est issu d'un rapport et instaure en même temps un rapport entre des gens, entre des groupes, entre des institutions. Et en fait, quand on parle du pouvoir, c'est de ce rapport, de ces rapports dont on parle. Et ce basculement hein, qui structure toute la pensée de Michel Foucault nous amène effectivement, si je m'inscris hein, dans cette logique-là, à penser le pouvoir comme radicalement relationnel. C'est-à-dire, on va comprendre le pouvoir quand on va comprendre la mise en relation, la relation et le type de relation qui existe entre des individus, des groupes, des institutions, etc. Alors, premier élément. Deuxième élément qu'il faut nous dire, c'est que quand bien même ces deux individus qui rentrent en relation, il y a une part qui va être liée à la relation des deux individus, c'est ce qu'on appellera la relation, d'accord, de pouvoir. Et puis il y a une part, je vais y revenir tout à l'heure, qui fait que ben, les individus qui rentrent en relation, ils n'arrivent pas tout nus, pour le dire avec cette image-là. Ils n'arrivent pas, quelque part, sans une histoire qui existe déjà, qui explique parfois aussi leur rencontre ou leur coprésence. Et dans cette histoire, il y a tout un certain nombre d'éléments qui vont rentrer en ligne de compte dans cette relation-là. Et notamment qui vont rentrer en ligne de compte comme des ressources que peuvent utiliser les protagonistes dans leur relation. On y reviendra dans un certain nombre de ces ressources, mais ça me paraît extrêmement important, c'est-à-dire il n'y a pas de pouvoir sans relation, mais là, il n'y a pas de relation qui serait vierge, vous voyez ? Là, elle ne se passe pas dans un contexte neutre. La relation arrive dans une histoire, dans des liens qui sont organisés, et aussi dans des positions qui, du coup, vont se traduire peut-être dans des positions différentes des protagonistes. Une des illustrations, c'est que la relation qu'il va y avoir entre l'enseignant et la maman d'un enfant, ou la mère d'élève, elle ne se passe pas comme s'il n'y avait rien d'autre. Elle se produit, j'ai envie de dire, sous l'égide déjà d'un certain nombre de choses organisées dans lesquelles des places sont déjà distribuées et dans lesquelles, finalement, on attend des uns et des autres un rôle particulier. Voilà. Donc, ces relations, cette partie relationnelle, est extrêmement conditionnée par énormément de choses. Hein, je vais y revenir un peu plus en détail, mais ça me paraît important. Premier élément, si je voulais, le pouvoir est relationnel, et il n'est pas une propriété. Deuxième élément, c'est que cette relation n'est pas isolée d'un contexte, elle se traduit immédiatement dans des positions qui ne sont pas nécessairement égales, parce que les ressources dont on dispose dans notre environnement, parce que les places qui nous sont distribuées, etc., ont une influence sur la manière dont ça va se passer. Troisième élément là-dedans, c'est que dans cette relation-là, il va se jouer la possibilité de s'entendre, donc de se comprendre, c'est-à-dire de se dire des choses qui peuvent signifier réciproquement pour l'un et l'autre. Or, on y reviendra peut-être, mais dans un certain nombre de relations qui sont très asymétriques, entre parents et enseignants, par exemple, entre élèves et parents, par exemple, entre chef d'établissement et professeur, par exemple, etc. C'est-à-dire, les niveaux hiérarchiques différents contribuent à des problèmes d'entendement. C'est-à-dire du fait qu'on peut se dire des choses, on peut dire quelque chose, mais l'autre ne pourra pas entendre ce qu'on veut lui dire. Et je dis ça pas seulement avec les théories de la communication, hein, c'est-à-dire qui disent entre l'émetteur et récepteur, il y a la différence. Oui, bien sûr que ces théories sont importantes, mais enfin, il y a quelque chose qui biaise à un moment donné, y compris dans cette théorie-là, c'est que les places que vont occuper les protagonistes de la relation sont structurées par un certain nombre d'autres choses qui rendent légitimes ou pas légitimes certaines paroles, qui rendent donc entendables ou pas entendables certains problèmes, et que du coup, la nature même de ce qui va être échangé est très liée à la détermination de ces places. Alors, j'ai amené le mot par la petite porte, mais finalement, on va y revenir par rapport à notre échange de ce matin. Une des questions qui arrive immédiatement avec la question du pouvoir va être la question de l'égalité. Et on voit bien ce que j'introduis là par la bande, j'ai envie de dire, ou par le détour. C'est-à-dire que une des questions qui se pose dans la question des rapports de pouvoir et leur lien avec la question de l'égalité, elle est très liée à la manière dont, finalement, vont se jouer ces relations de pouvoir. Quand je dis vont se jouer ces relations de pouvoir, je sous-entends qu'on n'en sort pas. C'est-à-dire, abandonnons l'idée, le rêve, je ne sais pas si c'est un rêve, mais que l'on pourrait être dans des rapports où il n'y aurait plus de question de pouvoir. On trouvera peut-être des formes souples, des formes moins brutales, mais il y aura toujours de la symétrie possible, il y aura toujours, en tout cas, du rapport de force entre les individus et ou entre les groupes et entre les institutions. Il y en aura toujours, mais sous-entendu, il peut se jouer différemment. Et la question de l'égalité, c'est pas la disparition des rapports de pouvoir, c'est comment vont-ils se jouer pour qu'on puisse s'entendre, c'est-à-dire pour qu'on puisse entendre réciproquement ce que les uns et les autres ont à dire, et construire une manière de faire qui le prenne en compte de manière égale ce que les uns et les autres ont à amener. Et pour ça, construire une relation avec une espèce de pot commun, je sais pas si cette idée vous parle, de pot commun autour duquel va se structurer une relation qui dispose, hein, qui finalement les places, qui distribue les places de manière plus égalitaire. Alors, on ne sort pas des rapports de pouvoir. Autre élément qui découle de ce que je disais, c'est que, et ça c'est vraiment la thèse de Michel Foucault, c'est que le pouvoir, au fond, c'est ni plus ni moins qu'un rapport de force. Mais rapport de force, force écrit au pluriel, hein, toujours au pluriel, parce que dans la pensée de Michel Foucault, tout rapport de force est nécessairement un pouvoir, et c'est toujours une asymétrie, hein, l'existence d'un rapport de pouvoir, c'est l'existence d'une asymétrie dans la distribution des forces. Et donc, ce dont on parle, c'est pas quelqu'un qui aurait la force et l'autre qui n'en aurait pas. C'est des forces en présence, c'est toujours au pluriel, des forces en présence, mais qui, dans la situation, vont pouvoir être tout à fait asymétriques. Et plus elles sont asymétriques, plus les rapports de pouvoir vont pouvoir être durs, d'une certaine manière. Autre élément qui me paraît important à se dire, c'est que, et là encore, le pouvoir n'est pas une... Enfin, ça va de pair avec l'idée que le pouvoir n'est pas une propriété. C'est comme c'est pas une chose qu'on acquiert, c'est pas non plus quelque chose de stable, puisque c'est lié à la relation. C'est lié aux interactions. Donc, au fond, cette question du pouvoir, elle va se rejouer dans toutes les situations d'interaction, par exemple, ou dans toutes les situations relationnelles, plus généralement. Elle va se rejouer, et du coup, ce qui fait qu'on a le sentiment d'une espèce de stabilité du pouvoir, l'idée que c'est toujours les mêmes qui sont du même côté du manche, pour prendre cette image-là, c'est bien parce que dans la manière dont les choses vont être jouées, l'équilibre des forces, ou le déséquilibre des forces plutôt, est non seulement suffisamment grand, mais aussi trouve suffisamment de ressources pour se rejouer toujours sur un mode équivalent. Prenons un exemple. Tenir sa classe, l'ordre dans la classe. Il n'existe pas, on peut dire, tiens, les enfants rentrent dans la classe, les élèves rentrent dans la classe, ils s'installent, on leur rappelle peut-être les règles, ok. N'ayons pas l'illusion, mais je suis sûr qu'on ne l'a pas. N'ayons quand même pas, c'est peut-être mieux en se le disant, n'ayons pas l'illusion que cette situation, une fois installée, va être pérenne. Si on a ce sentiment, c'est parce que, en fait, d'une part, les uns et les autres vont jouer le jeu, c'est-à-dire incorporer les règles du jeu, mais aussi parce qu'on va les remettre sans cesse, on va se les confirmer sans cesse dans la manière dont on va interagir. Et on les confirme en utilisant des ressources extrêmement variées. Une des ressources à laquelle on pense, quand on est architecte, mais à laquelle on pense peut-être moins quand on est dans d'autres positions, c'est celle du mobilier ou de la distribution de la salle. On fait en sorte que le conférencier ait une tribune qui soit un peu plus haut, voilà, par exemple, hein, pour traduire finalement l'espèce d'ascendance, hein, la relation asymétrique qu'il y a entre celui qui a un micro et qui parle tout seul pendant que tous les autres écoutent, par exemple. Hein. Donc, typique d'une relation de ce type-là, nous sommes traversés par des rapports de pouvoir. On peut très bien, ça ne veut pas dire qu'on les vit mal. C'est pas ça. Moi, je les vis pas très bien là tout de suite. Mais bon, ça, c'est vous me direz, c'est peut-être mon problème. Hein, voilà. Mais nous sommes traversés par ces rapports de pouvoir là. Voilà. Et du coup, une des ressources qu'on a dans la manière de jouer ces rapports de pouvoir, c'est aussi l'architecture, le mobilier, les choses qui ont été organisées. C'est aussi l'agencement des places. C'est aussi, bien évidemment, le rappel des règles. C'est aussi la façon dont l'architecture s'impose à nous comme une façon de nous rendre petits, de nous faire nous sentir petits dans un certain nombre d'édifices. Hein, c'est des faits que nous sentons, nous rentrons dans des lieux et tout à coup, on se baisserait tellement, etc. C'est-à-dire, au fond, si je prends ces exemples, c'est pour dire, le pouvoir utilise tout un certain nombre de ressources extrêmement diverses pour que le type de rapport et de relation que nous ayons s'organise d'une certaine façon, à la faveur de celui qui parle, par exemple, dans la situation qu'est la nôtre. Donc, si le pouvoir a une certaine pérennité, pour le dire comme ça, si les rapports de pouvoir ou l'ordre du pouvoir a une certaine pérennité, c'est aussi parce qu'il va se rejouer de façon incessante en utilisant tout un certain nombre de ressources extrêmement hétérogènes, le mobilier, l'architecture, les règles formelles qu'on va dire, celles qu'on ne va pas dire mais qui vont être implicites, celles qui, etc. Voilà. Plus ces choses sont implicites, plus elles sont incorporées, prises dans nos corps, où nous apprenons à nous comporter corporellement d'une certaine façon, et plus ça va être difficile de les voir. C'est-à-dire, plus on va être dans une situation où on aura l'habitude de fonctionner d'une certaine manière, et on ne verra plus que la situation est organisée par un rapport de force. Mais que ce rapport de force est tellement ancré dans les habitudes qu'on fait comme si c'était un rapport simplement normal. Et là, on va retrouver toute la question, effectivement, des implicites dans la pédagogie, mais aussi de tous les implicites dans le fonctionnement général, hein, de la relation. Plus nous voulons rentrer dans une question d'égalité, et plus, par exemple, il faudra que nous travaillions les dispositifs physiques, l'explicitation des règles, etc. Hein ? C'est-à-dire qu'il va falloir que nous jouions sur toutes ces choses qu'utilisent habituellement les rapports de pouvoir. Évidemment, on n'y pense pas à toutes, on les voit peut-être pas toutes, etc. Donc, mais... Alors, dernière chose sur laquelle je voulais insister par rapport à ce mot pouvoir, simplement pour qu'on s'entende bien autour de ça, c'est que comme c'est une relation qui est jamais que univoque. Même dans les relations dites de domination, il n'y a pas un dominant actif et puis un dominé passif. D'une part, il n'y a pas de dominant sans dominé, c'est-à-dire il y a une relation dialectique qu'on va avoir là-dedans, c'est-à-dire il n'y a pas de colonisateur sans colonisé, il n'y a pas d'homme sans femme, il n'y a pas de, etc. C'est-à-dire qu'au fond, la classe de ceux qui sont du bon côté, du côté actif, ou vu comme actif du manche, va de pair avec le fait qu'il y ait bien quelqu'un de l'autre côté. Il y a besoin d'explications sur quoi ? Ouais. Ce qui pose problème, c'est le passage de l'un à l'autre, c'est ça ? D'accord. Eh bien, on va y revenir tout à l'heure, c'est-à-dire que on va simplement nommer tout à l'heure un certain nombre de ces grands rapports de pouvoir ou rapports sociaux hein, qui, effectivement, structurent, organisent notre société et nos relations. C'est le fait que les rapports sociaux de sexe sont l'un des rapports sociaux absolument structurants de nos sociétés, absolument structurants des établissements scolaires, de la relation pédagogique, des curriculums, du curricula, etc. Parmi d'autres. Donc, insister sur le fait qu'il y a une relation dialectique, c'est-à-dire que dans les positions, comme c'est une interaction, si je suis tout seul, il n'y a pas de rapport de pouvoir. Je peux avoir des médias, évidemment, je peux avoir des intermédiaires ou des médias qui vont faire exister d'une certaine ce rapport de pouvoir sans besoin d'interaction directe. Mais c'est pas à ça que je fais référence. C'est l'idée que un terme appelle d'une certaine manière le contre-terme, hein, la contre-image, d'accord, pour que le rapport puisse fonctionner. Si nous arrêtions de croire dans le pouvoir de l'État et que nous disions l'État peut parler, nous n'y croyons plus, mais il n'y aura plus d'État. Ça marche que parce que ce que disait Anthony Daffet, c'est-à-dire que l'État, y compris Souti, se donne des ressources, notamment juridiques, de dire vous devez être républicain pour, enfin, etc. On ne s'est pas dit ce que voulait dire être républicain, hein, d'accord. À la fin du 19e siècle, ça voulait dire se reconnaître dans la supériorité française qui va développer la civilisation chez les sauvages, etc., par exemple. C'était républicain aussi, ça, à une époque. Voilà. Du coup, on voit bien à un moment donné que pour pouvoir se produire, il faut que nous adhérions à ces logiques-là. Et ça fait partie d'une des formes par lesquelles, effectivement, le pouvoir fonctionne, c'est que nous y adhérons, globalement. Nous y adhérons globalement, parfois parce qu'il nous convainc qu'il est bon, mais plus généralement parce que nous avons le sentiment que nous n'avons pas le choix, peut-être. Et là, sur les rapports hommes-femmes, on a les deux éléments, c'est-à-dire quand on demande à des hommes ou à des femmes comment ils se situent dans ces rapports hommes-femmes, il y a beaucoup de gens qui trouvent tout ça tout à fait naturel et absolument non problématique que les femmes soient dans des positions subalternes, ou qu'elles soient cantonnées dans des rôles sociaux plus intérieurs, plus liés à l'éducation, etc. Voilà. Il y a une autre part qui les voit, les vit, et les vit avec violence, mais qui va avoir le sentiment d'impuissance par rapport à l'énormité vécue de ces rapports-là, leur constance, leur diffusion systématique, etc. Donc, un, il y a une relation effectivement pas de dominant sans dominé, pas d'homme sans femme, dans ces catégories, hein, j'entends. Deux, il y a le fait que nous l'acceptons, malgré tout, nous acceptons toujours une partie de ces rapports de pouvoir, quand bien même on est dans des stratégies de la résistance. Et troisième chose, et ça me paraît tout à fait essentiel, il y a toujours des résistances. Il y a toujours des manières plus ou moins visibles au regard du pouvoir, plus ou moins subtiles, plus ou moins publiques ou privées. Il y a toujours des modes d'expression du pouvoir. Et une chose qui me paraît extrêmement importante à entendre, que moi j'ai pas mal travaillé à partir des questions de discrimination, c'est pourquoi, un petit peu autour de cet apparent mystère, c'est pourquoi les élèves discriminés disent qu'il n'y a pas de discrimination. Pourquoi, quand on parle de la discrimination à l'école, la plupart des élèves disent « Ah oui, il y en a !» Et vous, vous en vivez ici ?« Ah non, 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 ici, il n'y en a pas !» Ou alors « Oui, il y en a, mais c'est plutôt un tel, ou c'est plutôt là-bas, ou etc. » cette espèce de mystère apparent, c'est-à-dire que quand on parle de l'expérience de la discrimination à l'école, c'est pas forcément le cas dans les autres lieux sociaux, hein. À l'école, il y en a, mais c'est pas ici, c'est pas maintenant et c'est pas pour moi. Donc qu'est-ce qu'on dit à ce moment-là? Qu'est-ce qu'on dit de cette expérience-là? Et qu'est-ce que cette manière de dire, ou plutôt de ne pas dire, des discriminations, nous parle du phénomène lui-même, de la manière dont fonctionnent les rapports de pouvoir dans cette institution, etc. Moi, une chose que j'ai apprise dans mes recherches, c'est que c'est d'une part à regarder autrement, c'est-à-dire qu'il y a dans les établissements scolaires, par exemple, des lieux où ce type d'expérience se parle, ou s'affiche. Mais précisément, c'est les lieux qui sont cachés au regard. Ou alors, c'est sous des formes qui sont codées, donc propres aux groupes qui partagent cette expérience-là, et qui du coup ne sont pas visibles au regard des adultes. J'ai enquêté dans un collège sur l'expérience du racisme, et tout le monde me disait que dans le collège, il y avait un ou deux profs qui étaient racistes. Voilà, cette situation se reproduisait, m'amenant à dire que chaque établissement à peu près a son raciste de service, un petit peu dans l'imaginaire collectif, c'est-à-dire quelqu'un qui incarnerait la figure du problème et qui du coup libérerait tous les autres de la figure du problème. J'avais mené en termes de méthode d'enquête, c'est-à-dire que j'avais demandé à des élèves de faire le parcours, j'ai demandé à des élèves et à des professionnels, à chacun de faire le parcours dans l'établissement. Voilà. Pour resituer des histoires, des expériences, des anecdotes, pour resituer le savoir qu'ont chacun, finalement, qu'a chacun de l'établissement. Et certains m'ont amené dans des lieux reculés, qui étaient occupés par certains groupes seulement. Ces groupes, ils étaient vus par les professionnels. Ils étaient vus en disant « Ah ouais, il y a le groupe des Arabes qui se réunit là-bas ». Moi, ce que j'ai entendu, si vous voulez, dans ces trajets, c'est qu'il y avait le groupe de ceux qui partageaient une expérience de la discrimination et qui allaient effectivement occuper un lieu dans lequel, sur les murs à cet endroit-là, ils avaient écrit des trucs. Et que si on vous donnait les codes, ça nous parlait des rapports qu'ils avaient eus avec tel prof ou avec tel autre, etc. C'est-à-dire qu'au fond, je ne dis pas que c'est systématique, mais là, on avait une face dans laquelle les rapports de pouvoir, et là, les rapports de pouvoir racistes, vécu dans l'établissement, était inscrit physiquement dans l'établissement, sur les murs de l'établissement. Donc c'était presque une publicité, mais une publicité cachée au regard habituel et officiel. Une publicité qui ne fonctionnait que pour ceux qui étaient initiés à ce lieu, à la logique de réunion dans ce lieu, et à l'interprétation du code qu'il y avait, y compris dans l'inscription. Et ça m'a amené, si vous voulez, ça m'a amené à me retrouver dans un certain nombre de travaux autour de l'idée que dans les rapports de pouvoir, on le sait bien, il y a des choses qu'on ne peut pas dire à la face du pouvoir. Mais ce qu'on ne peut pas dire à la face du pouvoir, à ses représentations, à son représentant, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas le dire du tout. Ça veut dire que très souvent on le dit, mais dans d'autres lieux, dans d'autres scènes, sous d'autres formes. Et là, la particularité dans cette recherche-là, c'était que je trouvais l'existence au sein même de l'établissement d'une contre-scène, pour le dire comme ça. Vous voyez ? Ce qui n'est pas toujours systématique ou pas toujours facile à identifier quand on arrive dans un établissement. Donc tout ça pour insister sur le fait que il y a de la réaction, il y a de la résistance, il y a des remises en jeu de ces rapports-là, mais qui se font sous des formes qui peuvent être totalement cachées au regard habituel et institutionnel, d'une part, mais qui peuvent aussi prendre les formes tout à fait, on pourrait dire, détournées. Et un des éléments, quand on travaille sur les questions de discrimination ou de racialisation, par exemple, c'est que on voit des effets de ces processus-là dans les trajectoires des élèves, mais pas seulement dans les trajectoires scolaires. Dans le fait, par exemple, il y a un certain nombre de travaux sur la réidentification ou l'identification à l'islam, l'identification à des groupes ethniques, voilà, comme le produit de l'expérience de racialisation, notamment à l'école. Donc, ce pouvoir opère, et ce pouvoir opère aussi à travers, d'une certaine manière, y compris les résistances, les déviations, les détournements qui peuvent être faits par les uns et par les autres. Excusez-moi d'avoir été un petit peu long sur ça, mais ça me paraît important de le stabiliser. Je vais essayer d'être un peu plus rapide sur les deux autres points que je voulais poser, c'est-à-dire, d'une part, la question rapports sociaux et relations sociales. J'ai dit tout à l'heure que quand on pose le pouvoir, sur le mode relationnel, il existe entre deux individus qui se rencontrent. Mais il y a une part, donc, on pourrait dire, où le pouvoir existe sur le mode, plan des relations sociales, sur le plan des interactions entre les uns et les autres. Quand on parle de relations sociales, on renvoie finalement à un concept qui nous paraît peut-être plus le quotidien du vécu, c'est-à-dire lorsque nous rentrons immédiatement en interaction, qu'il se passe des choses du point de vue verbal, du point de vue du corps, du point de vue du regard, du point de vue, etc. C'est-à-dire tout, du point de vue des objets que nous nous transmettons, des informations que nous nous transmettons, c'est-à-dire toutes ces situations de relations, hein, les uns avec les autres. La difficulté, c'est que ces rapports de pouvoir, ils sont très liés aux institutions dans lesquelles nous travaillons, aux formes instituées avec lesquelles nous travaillons. J'ai parlé de l'architecture, etc. Hein, c'est-à-dire, on voit bien que toutes les ressources et l'environnement dans lequel nous sommes, il est lui-même très globalement organisé, d'une certaine façon, par ses rapports de pouvoir, et en tout cas, il est organisé de telle manière qu'il rend possible la reproduction de ces rapports de pouvoir. Alors, ça nous amène au concept, justement, de rapport social, hein, et à penser, finalement, que la question du pouvoir, elle fonctionne, on pourrait dire, à deux niveaux, ou elle nous parle de deux niveaux. Quand on utilise, en tout cas, les concepts en relation rapport social, d'une part, relation sociale, d'autre part, c'est qu'on parle d'un côté d'un rapport d'un niveau macro, à la fois macro-historique, à la fois macro-sociologique, et d'un niveau micro auquel la réalité des rapports de pouvoir peut être vécue et saisie. Elles opèrent, là où ça nous apparaît le plus immédiatement, c'est que ça opère au niveau des interactions immédiates, des relations sociales. C'est là où on le voit en premier lieu. On le voit en premier lieu parce que, parfois, on se confronte à des formes qui soit sortent de l'ordinaire, soit paraissent plus brutales, plus violentes, peut-être, que l'ordinaire. On est rappelé à l'ordre. Ou on se prend un poing dans la figure, ou on est insulté, ou on a une résistance particulière en face de nous, etc. Hein, toute forme que peut prendre, là, dans le niveau de la relation, hein, de la relation sociale. Ce que je disais tout à l'heure, c'est que, y compris ces relations, sont très organisées par des champs beaucoup plus larges, par des ressources beaucoup plus globales. Et ce qui me paraît important, c'est de penser avec, c'est l'un des théoriciens, des grands théoriciens sociologiques de l'interaction, ou des questions d'interaction, c'est Erving Goffman, qui nous dit dans un livre qui s'appelle « Les cadres de l'expérience », qui nous incite, comme je le faisais là, à développer un regard sur ces relations et un rapport de pouvoir, un savoir regarder, si vous voulez, sur les interactions, hein, sur les processus interactionnels, mais, dit-il, s'il s'agit de développer donc ce regard sur les processus interactionnels, je le cite, ce sont les cadres et non les interactions qui doivent avant tout nous préoccuper. C'est-à-dire, on ne peut pas, un, ni extraire les interactions de cadres plus globaux de pensée, et d'autre part, ce qui est le plus déterminant dans la vie des gens, c'est pas seulement l'expérience vécue comme ça, là, maintenant, dans les relations, c'est souvent la répétition d'un certain nombre d'expériences qui peut être vécue comme équivalente. Et cette répétition, on peut la comprendre à partir du fait que nous vivons dans un monde qui est organisé très largement avec ces rapports de pouvoir, à partir de rapports de pouvoir, et que ce monde essaye, d'une certaine manière, de stabiliser dans le temps. C'est ça qu'essaye de pointer le concept de rapports sociaux. C'est-à-dire, je vais prendre la citation de Roland Pfefferkorn, dans un bouquin qui s'appelle « Genre et rapports sociaux de sexe ». Il nous dit « Un rapport social est une tension qui traverse le champ social et qui érige certains phénomènes sociaux en enjeux autour desquels se constituent des groupes sociaux aux intérêts antagoniques. » La question du rapport social nous amène à dépasser, et à reprendre en compte, mais à dépasser le niveau simplement de l'expérience inter-individuelle, pour dire ces expériences inter-individuelles sont elles-mêmes situées dans des grands enjeux qui existent historiquement, qui existent politiquement à d'autres échelles, et qui façonnent au fond, et nos trajectoires de vie et notre expérience interindividuelle. Il les façonne notamment parce que ces grands rapports-là sont organisés autour de groupes différents et autour de la différenciation entre certains groupes et autour de l'attribution à ces groupes de places distinctes, de rôles distincts, de statuts sociaux distincts. C'est comme ça, d'une certaine manière, très largement, que le pouvoir opère en termes de rapports sociaux. C'est-à-dire, on va le retrouver, le voir, si vous voulez, par exemple, à travers la manière dont on catégorise, dont on regroupe, dont on définit les problèmes, dont on définit les publics, ou dont on définit les places des uns et des autres. Ça va se voir, ça va se dire beaucoup sous ces opérations de catégorisation, sachant que catégorisation, c'est ces processus cognitifs par lesquels nous fabriquons un groupe dans lequel nous classons des individus, auxquels nous attribuons un certain nombre de valeurs supposées, de compétences supposées, de capacités supposées, d'accord ? Et que, à partir de là, nous traitons comme si cet ensemble-là avait telle et telle particularité que les autres n'ont pas. Et l'existence de ces grandes catégories, par exemple, de ces grands schémas de catégorisation, nous les apprenons. Et ça, l'école, parmi d'autres lieux de socialisation, joue un rôle très important dans l'apprentissage de ces grandes catégories des rapports de pouvoir. J'y reviendrai tout à l'heure sur simplement le pointer un petit peu de quel ordre elles peuvent être. Donc une des questions qui traverse effectivement l'école dans les rapports de pouvoir, c'est comment elle contribue à l'apprentissage de ces catégories et donc, d'une certaine manière, à l'apprentissage de ces rapports de pouvoir comme étant, si ce n'est naturel, du moins normaux. Rôle attendu des uns et des autres. Dernier point sur le plan un petit peu des mots, sur lequel je voulais poser des choses qui me paraissent importantes, c'est que, évidemment, ces rapports de pouvoir, il y en a une face, j'ai envie de dire, relativement peu visible au premier abord, qui peu visible parce que ça nous semble habituel, voire naturel, d'accord ? Parce que c'est lié au schéma de catégorisation que nous avons, d'accord ? Il est normal, globalement, que un élève se comporte comme ça. Donc, s'il se comporte comme ça, je vais simplement penser que c'est un élève. Je vais pas y voir autre chose, d'une certaine manière. Je vais oublier que derrière le statut d'élève, il y a là l'opération de rapport de pouvoir, hein, qui nous disent quelque chose sur l'ordre de la société. Donc, j'ai envie de dire, il y a une face comme ça qui est relativement invisible. Il y en a une face, évidemment, qui est relativement visible, qui est tous les conflits, tous les moments de cristallisation, de tension, qui sont les tensions qu'on peut vivre, hein, les contradictions qu'on peut vivre, les contradictions éthiques que nous pouvons vivre dans notre travail, les moments où ça crise, d'accord ? Les moments où, finalement, l'espèce d'agencement normal et légitime et habituel est mise en crise par un certain nombre d'expériences. Et il me paraît très important, du coup, d'être attentif non seulement à ces expériences-là, mais de leur donner leur portée générique, hein, de les resituer, finalement, dans ces gros grands rapports de pouvoir. Alors, une des tensions qui m'apparaît à ce niveau-là, c'est une tension entre une logique de pacification, une logique de consensus, d'une part, et d'autre part, une logique du conflit. Et il me paraît assez important pour ça de recourir ou de rappeler une partie du travail de Michel Foucault, quand il a travaillé sur ce qui s'appelle historiquement, ou ce qui a été appelé, la guerre des races. Et il situe autour de cette idée de la guerre des races, il situe l'émergence d'un nouveau type de discours et du coup d'une nouvelle manière de représenter le monde. Alors, il situe ça vers la fin du XVIe et le milieu du XVIIe siècle, une rupture dans la façon finalement de penser le discours et du coup de parler du pouvoir. Jusque-là, dit-il, met-il en avant, on a principalement une lecture qui qualifie de philosophico-juridique, qui est un discours qui soutient la souveraineté, qui soutient le roi, et qui l'inscrit pour ça dans une espèce, voilà, dans le rapport finalement d'éternité du lien à Dieu, hein, le roi divin, d'accord, de source divine. Et du coup, c'est-à-dire qu'il extrait aussi de l'ordre des relations les plus communes. Ce qu'il voit émerger entre la fin du XVIe siècle et du XVIIe siècle, c'est un nouveau discours qui ne va plus soutenir l'ordre de la souveraineté de la même manière, en tout cas plus s'articuler à l'ordre de la souveraineté de la même manière. C'est que on va arrêter de représenter, enfin on va pas complètement l'arrêter, mais va apparaître un autre discours qui va critiquer la manière de représenter habituelle jusque-là, qui était de représenter la société organisée fonctionnellement autour des trois États, autour de la juste hiérarchie avec à son sommet le roi, etc. Un discours fonctionnel, c'est-à-dire qui explique, qui représente les places des uns et des autres en expliquant par un discours supérieur, hein, divin, la place des uns et des autres. Il va voir émerger un discours plutôt historique ou historico-politique qui va prendre la forme de ce qui s'appelle la guerre des races à cette époque-là, c'est-à-dire où on va se mettre à expliquer l'ordre du monde non plus par un ordre stable et fonctionnel, mais par l'existence de toute éternité, pour le dire comme ça, d'un conflit dual, d'une représentation binaire du monde. Les dominants, les dominés, pour aller vite. Et qui va chercher à expliquer le pouvoir et la manière dont le pouvoir, d'une part, se justifie, mais aussi devrait fonctionner. Hein, au moment où ça se formule, c'est un appel au roi à transformer ou à redéfinir ses alliances politiques, en expliquant que l'histoire, finalement, est la répétition d'une grande guerre, et que ce qui est en jeu, c'est d'assurer la domination des vainqueurs. Ou, pour ceux qui ne sont pas du côté du vainqueur, de modifier l'ordre pour ne pas rester les vaincus de l'histoire. C'est-à-dire, c'est la transformation, si vous voulez, d'une lecture architecturale, pour le dire comme ça, de la société et des places sociales, dans une lecture d'une société organisée de tout temps par un conflit qui la traverse. C'est à partir de cette nouvelle lecture, de cette logique de la guerre, dit Foucault, que vont émerger, notamment à partir du XIXe siècle, un certain nombre des théories. D'une part, des théories classistes, et d'autre part, des théories de la lutte des classes. D'une part, des théories racistes et racialistes, qui vont chercher à classer, à fabriquer le concept de race pour classer, pour dire quel est l'ordre du monde, sous-entendu lequel il devrait être aussi, hein, quel est l'ordre du monde, et des théories antiracistes, qui vont émerger, elles, pour le coup, en tant que théorie, plutôt un peu plus tard, et qui vont contester, d'une certaine manière, ces grilles de lecture, et montrer le type de rapport de pouvoir qui existe à travers ces discours-là. Voilà. Ce que je veux simplement insister, si vous voulez, là-dedans, c'est que dans ce discours, dans ces deux discours-là, l'émergence d'un deuxième discours n'a pas éteint le premier, pour le dire comme ça. C'est-à-dire, le discours qui présente la société en disant « chacun a sa place », et voilà la représentation globale de la société, continue bien entendu à exister. Mais il est doublé d'un discours critique, bien souvent, qui appelle à transformer ce monde-là. Et ce second discours critique est un discours qui va adopter beaucoup plus une lecture polémologique, qui va être beaucoup plus intéressé à organiser, à intensifier un certain nombre de conflits, un certain nombre de situations critiques, un certain nombre de tensions, à activer un certain nombre de tensions, qui sont l'occasion de dénoncer des rapports de pouvoir ou un certain ordre du pouvoir. Alors, si je reviens si loin en arrière, c'est pour dire, c'est pas seulement, vous voyez, les conflits, les tensions, etc., que l'on vit, ne sont pas seulement à lire d'un point de vue contextuel immédiat, elles s'ancrent aussi dans un rapport au monde très différent, que l'on a, on disait, on prenait l'exemple de ceux qui utilisent le droit, je ne sais plus le mot que tu utilises, quérulent. Hein. On a des rapports de cet ordre-là au droit, qui vont l'utiliser de manière extrêmement polémique comme outil de venir toujours dénoncer un certain nombre d'asymétries, comme on a des rapports, au contraire, qui posent le droit comme un élément de pacification sociale et qui vont simplement l'utiliser pour faire taire les conflits. Voilà. Donc ça me paraît important, si vous voulez, d'avoir ces deux rapports, parce que il me semble déjà qu'on peut être confronté à des stratégies, à des situations dans lesquelles ces deux types de stratégies existent, mais il me semble aussi que ça organise, quand on est dans la logique de gestion, par exemple, d'un établissement, que ça organise des situations ou des tensions extrêmement fortes entre une logique d'un côté de la pacification sociale qui voudrait faire en sorte qu'il n'y ait pas de problème et une logique de reconnaissance des rapports sociaux qui, elle, voudrait au contraire créer, pointer des problèmes. Pas les créer au sens ils n'existaient pas avant, mais au sens de ils n'avaient pas de légitimité avant et on va s'autoriser à les voir, à les dire, à les travailler. Mon invitation tout à l'heure à travailler ces dimensions-là, elle est plutôt sur le versant, second versant de cette lecture de la guerre, dirait Michel Foucault, c'est-à-dire sur le fait que sous l'ordre pacifié du monde couve un certain nombre de conflits dont nous n'arrêtons pas de voir des formes dans notre société. Il me paraissait juste important de le rapporter à ce rapport au monde, à cette lecture, c'est-à-dire que la possibilité de voir les rapports de pouvoir est liée d'une certaine manière à un point de vue polémologique, pour aller vite. Elle est liée à l'acceptation que continue à exister ce rapport au monde et cet ordre réel du monde. Quand bien même on est attaché à coopérer, à pacifier, à s'entendre, à vivre ensemble, etc. Du coup, cohabitent hein, deux modes d'explication de la situation et deux appels, si vous voulez, à fonctionner tout à fait différemment. Or, on sait relativement bien que, c'est pour ça que c'est une tension, que s'en tenir à un mode de la pacification, alors qu'existent des logiques de critique, risque fort de nous faire courir à de plus en plus de sécuritarisme, de plus en plus d'usage de la force pour faire tenir un ordre soi-disant pacifié. C'est-à-dire plus la contestation est importante, et plus évidemment elle vient fragiliser la possibilité de tenir un ordre pacifié ou de représenter un ordre pacifié. Et si on l'est à l'échelle historique, on est probablement effectivement dans une époque où les conflits se démultiplient de ce point de vue-là, les formes de dénonciation se démultiplient, et du coup, il devient compliqué pour une institution de continuer à faire comme si tout était normal. Mais comment interprétons-nous tout ce qui émerge ? Alors, deuxième paradoxe et qui vient activer cette tension, il me semble, dans nos vies professionnelles, c'est que nous sommes dans une époque qui est une époque consensualiste, c'est-à-dire que où dans cette double lecture, hein, où on oppose d'une part un discours de l'ordre, hein, qui organise, qui montre fonctionnellement comment cela fonctionne, et un discours qui dénonce finalement des asymétries politiques, on est dans une époque consensualiste, ça a été bien pointé sur le plan des théories philosophiques, quand certains se sont mis à parler de la fin des classes sociales, et qui est très lié à l'imposition du néolibéralisme, c'est-à-dire à l'imposition d'une manière dominante de représenter finalement l'ordre du monde, son juste fonctionnement, etc. Avec, du coup, un paradoxe, à mon avis, qui est souvent sociologiquement légitimé, hein, c'est que ce discours sur la fin des classes va de pair avec la montée des inégalités sociales. Ce que constatent bien les études sociologiques sur les inégalités, c'est-à-dire que en même temps qu'on dit circuler, disons la société s'est rangée d'une certaine manière sous une même manière de se représenter fonctionnellement, dans le même moment nous observons partout, sur beaucoup d'indicateurs en tout cas, un certain nombre de montées des inégalités et parallèlement de montées des tensions. Dans cette époque consensualiste, si vous voulez, la particularité peut-être, c'est que nous ne sommes plus, comme auparavant, dans une espèce d'arbitrage entre représenter la société pacifiée ou la représenter sous la forme des luttes. C'est au contraire la diffusion d'une image ou d'un discours qui est celui dit de la fin de l'histoire. C'est-à-dire un discours de l'ordre qui ne dit plus, de toute façon, il y a l'ordre, et nous sommes les vainqueurs, nous sommes les dominants, vous pouvez vous agiter comme vous voulez, vous ne le transformerez pas. Non plus un discours qui dit, non, non, il n'y a pas de grande lutte, ici, liberté, égalité, fraternité, ça fonctionne comme ça. Mais un discours qui dit, mais il n'y a plus d'histoire. Donc, la logique de guerre n'a plus lieu d'être. C'est un discours qui dit justement, excusez-moi, je me contredis par rapport à ce que je disais tout à l'heure, je me suis mélangé les pinceaux, qui dit justement, mais voilà, nous sommes les vainqueurs, il n'y a rien d'autre à faire que de l'accepter. C'est-à-dire, au fond, c'est un discours qui cherche à désespérer les luttes, on pourrait le dire comme ça, en supprimant leur objet. Non pas en disant, il n'y aura pas d'objet, mais ici, il n'a même plus de place. Il me semble que cette logique-là, ce nouveau discours a pour conséquence des formes de violence, une transformation des formes de violence. Et là, je m'inscrirai en faux par rapport aux lectures sociologiques qui, dans les rapports de violence ou les relations de violence, les situent comme des violences anomiques. Il me semble que ce ne sont pas des violences anomiques, c'est-à-dire ce ne sont pas des violences sans normes, mais il me semble que ce sont des violences qui répondent d'une certaine manière à ce discours du désespoir politique, c'est-à-dire des violences dont l'objet n'a plus de quoi se symboliser dans des discours de lutte. Et c'est pas anomique, hein, au sens propre. Mais effectivement, n'a plus à se symboliser dans des grands schémas de lutte. Alors, c'est pas tout à fait vrai, et je vais dire le contraire presque tout à l'heure, c'est qu'il me semble que l'émergence d'une question comme celle des discriminations a tout à fait partie liée à voir à cette transformation, finalement, du discours des luttes, qui ramène un certain nombre d'ancrages possibles des luttes. Voilà. Et que c'est pas pour rien que ce moment, ça arrive à cette époque-là, c'est-à-dire resituer un certain nombre de points de critique possibles. Dernier élément, si vous voulez, sur ça, ce qui active cette tension, c'est dans cette époque consensualiste aussi, c'est des transformations dans les modes de gestion, dont on a un petit peu parlé ce matin. Tout cet appel à la contractualisation, au partenariat, qui là aussi nous arrive de ce grand schéma, pour le dire, néolibéral, c'est-à-dire une redéfinition de la manière dont la société fonctionne ou devrait fonctionner, et qui situe les choses de manière beaucoup plus horizontale, latérale, que étatique et verticale. Voilà. La grande difficulté, et elle me paraît extrêmement forte dans une institution comme l'institution scolaire, c'est que du point de vue de la représentation de l'objet de travail, on reste dans un schéma qui est extrêmement vertical. En même temps qu'on incite à faire du partenariat, c'est-à-dire qu'on incite à développer des relations horizontales. Et que là, je vous renvoie vers le texte qui a été mis en ligne sur le site sur la question du partenariat dans la réussite éducative, c'est que on est, à mon avis, dans une situation qui produit des paradoxes tout à fait considérables. Dire partenariat se transforme, veut dire d'une certaine manière, entre l'école et les autres, nous allons tous être à égalité et autour de la table pour parler des problèmes qui nous occupent tous. Je veux dire, ça c'est dans l'image, dans l'idée, dans le principe. Ce qu'on oublie de dire là-dedans, c'est que la relation entre l'école et les autres n'est pas une relation symétrique et égalitaire. Et que le système scolaire est très organisé par la centralité et la verticalité du système de l'institution scolaire, et que du coup les places qui sont données ou proposées à tous ceux qui seraient intéressés sont des places subalternes, marginales et subalternes. Et ça se traduit, y compris par les mots qu'utilise l'institution, en parlant du périscolaire, en parlant des intervenants extérieurs, etc. C'est-à-dire, on a là une des contradictions, à mon avis, qui est celle de l'époque, c'est effectivement dans les transformations, on est à la croisée entre deux logiques de régulation qui sont relativement indéterminées et qui produisent, qui rendent visibles, peut-être pour le dire comme ça, plus visibles un certain nombre de rapports de pouvoir qui structurent la situation. Alors, je terminerai simplement en pointant un certain nombre des grands rapports, et je distinguerai deux choses des grands rapports de pouvoir qui structurent un peu la situation. En distinguant deux choses, il y a d'une part ce qu'on pourrait appeler des rapports institués, des rapports de pouvoir institués, qui globalement, parce qu'on en a l'habitude, parce qu'ils font partie de la structure même de travail et de notre légitimité de travail, peuvent nous apparaître relativement non problématiques. Je voudrais simplement nous rappeler qu'elles sont tout aussi problématiques, c'est-à-dire que ce sont bien des rapports de pouvoir qui les structurent. La deuxième chose, c'est que, et les deux sont liés, l'existence de tout un discours sur les rapports institués, les rapports de pouvoir institués, donc légitimes, sous-entendu, hein, normaux, légitimes, ancrés dans l'ordre même de l'institution, le fait de reconnaître un certain nombre de ces rapports et des hiérarchies, par exemple, va de pair dans le discours républicain avec l'occultation d'un certain nombre d'autres rapports, qualifié en général de rapports sociaux, hein, par les sociologues qui travaillent sur ces questions-là. Donc coexiste et surtout s'articule, hein, s'entremêle des types de rapports sociaux très différents, très hétérogènes, mais qui sont d'une certaine manière très souvent indémêlables. Hein, c'est ça que je voulais dire, c'est-à-dire un, la pluralité de ces rapports de pouvoir, ou de ces grandes formes historiques, si vous voulez, de ces rapports de pouvoir, deux, leur caractère extrêmement articulé. Alors, trois grands rapports institués, il y en a peut-être d'autres, mais voilà, pour en pointer quelques-uns. D'abord, le rapport d'éducation. Le rapport d'éducation qui apparaît relativement naturalisé dans l'idée d'éducation nationale, par exemple. Si je cite donc Michel Foucault, toujours très présent à travers mon propos, qu'est-ce après tout, dit-il, interroge-t-il, qu'est-ce après tout qu'un système d'enseignement ? Sinon une qualification et une fixation des rôles pour les sujets parlants, sinon une distribution et une appropriation du discours avec ses pouvoirs et ses savoirs. Il pointe ça dans un texte qui est le texte de sa première leçon, sa leçon inaugurale au Collège de France, qui s'appelle « L'ordre du discours ». Et il me paraît que ça nous ouvre tout un certain nombre d'éléments, c'est-à-dire dire ce qui est à enseigner, l'objet de l'enseignement, les savoirs, sont eux-mêmes une expression des rapports de pouvoir. Si vous participez des groupes qui fabriquent les curricula, etc., vous le savez bien, hein, c'est-à-dire combien, à un moment donné, de quoi allons-nous parler et qu'allons-nous apprendre fait partie, hein, finalement, de cette organisation-là, ce que transmettons. Mais plus globalement, il me semble, et celle-là, ce serait plutôt en allant regarder du côté de Jacques Rancière et ce petit bouquin « Le maître ignorant », c'est-à-dire qu'il vient nous rappeler que le rapport même d'éducation, l'idée même d'éducation, elle est fondée sur une asymétrie qui présuppose ou qui s'organise avec un présupposé. C'est-à-dire que pour enseigner, il faut présupposer que l'apprenant ne sait pas. Pour travailler sur la forme de l'apprentissage, il faut présupposer que celui qui va apprendre ne mettra pas en forme ou ne sait pas mettre en forme relativement par lui-même. Et du coup, avec cette rupture que l'on sait bien, hein, à l'école maternelle par exemple, que l'on sait bien, cette rupture très importante entre la socialisation familiale ou la socialisation générale, on va dire, et le type de socialisation scolaire, c'était une rupture très importante qui est que tout à coup, là où l'enfant apprenait à travers son expérience, son observation, sa répétition, sa réappropriation, etc., on lui se met à lui apprendre par un autre mode. Et un autre mode qui le situe, qui lui donne un statut particulier qui est défini par des manques, qui est défini par le non-savoir, par le non-savoir-faire, par le etc. C'est-à-dire qu'elle est définie par des manques plutôt que par des capacités. Et là, on a un schéma qu'on va retrouver dans tous les rapports de pouvoir, c'est la définition d'autrui par l'incapacité, par la question des capacités. C'est l'explication des hiérarchies sociales par le fait que certains seraient capables et d'autres pas capables. Donc au cœur, si vous voulez, de ce rapport d'éducation, il y a, qui est un rapport de pouvoir, il y a cette idée, hein, c'est-à-dire que enseigner présuppose d'avoir des ignorants, pour aller vite. Deuxième grand rapport dont nous avons parlé ce matin, je ne veux pas m'y étendre, ce sont les rapports de travail, qui sont aujourd'hui tellement habituels, parce que très organisés, y compris par le droit du travail, hein, mais qui sont bien des rapports qui, au départ, se sont constitués, et l'émergence du droit du travail à cette ambivalence-là C'est-à-dire qu'elle est venue codifier d'une manière régulée des rapports de travail qui existaient, pour permettre aussi de limiter ces abus, mais elle est venue en même temps, c'est l'un des objets et des rôles du contrat de travail, elle est en même temps venue fixer la main d'œuvre qui avait tendance à venir repartir, un petit peu comme dans le stage, si j'ai bien compris, à venir avec une certaine mobilité, prendre, sortir, etc. Donc là, il n'y a pas de contrat de travail, c'est ça que j'entends aussi dans le stage. C'est-à-dire que du coup, quand, comme il n'y a pas cet outil-là qui maintient un rapport, qui oblige, qui exige, ça donne effectivement une mobilité plus importante, dont j'entends qu'on ne se prive pas peut-être d'utiliser. Voilà. Donc, cette question, effectivement, des rapports de travail, elle est très organisée. Et j'imagine que si vous êtes chef d'établissement ou d'une position de hiérarchie ou intermédiaire, la question des syndicats, des relations syndicales, des représentations, j'imagine qu'elle est extrêmement présente dans le quotidien, qu'elle prend des formes parfois particulièrement durcies ou rigides, peut-être en un certain nombre de cas d'expression. Mais elles sont effectivement le fruit d'une histoire. Et ça me paraît extrêmement important de se rappeler que nous sommes là, dans une institution hiérarchisée, par ce mode-là d'organisation des rapports. Et hein, tout ce qu'on a dit ce matin sur ce que doit être le travailleur au travail quand il est un travailleur du public. Troisième grand rapport institué, et je l'ai déjà nommé un peu, on en a aussi un peu parlé ce matin, ce sont les rapports institutionnels. C'est-à-dire, et là, qui est très lié au discours de l'État, à la suprématie historique de l'État et de la figure de l'État-nation. Et cela a des conséquences, y compris ce que j'évoquais rapidement tout à l'heure sur le partenariat, c'est-à-dire ça génère des relations asymétriques entre des associations par ailleurs financées par l'État et des services de l'État, c'est-à-dire comment ces rapports-là s'organisent. En tout cas, il y a de l'asymétrie, il y a des relations de pouvoir autour de ça. Et cette histoire de la place des institutions, elle est évidemment tellement ancrée, tellement naturelle, tellement normale quand on est dans l'éducation nationale, c'est logique, mais elle est extrêmement structurante, on le sait bien, du rapport aux parents, de la manière dont les gens se comportent dans l'enceinte de ce qui est la représentation institutionnelle ou face à un représentant de l'institution. C'est-à-dire on voit bien que cela opère sur le sentiment que quelqu'un, quand il rentre dans un établissement, a le sentiment de se sentir à l'aise ou pas à l'aise, en capacité de dire certaines choses ou pas certaines choses, de s'adresser à certains plutôt qu'à d'autres, etc. Donc les stratégies que chacun de nous, on va avoir dans les institutions-là, témoignent aussi des manières, des ruses d'une part, que l'on a, et des formes de soumission que l'on a à cet ordre-là, mais il paraît très nécessaire de nous rappeler hein, combien cet ordre-là travaille, ce rapport de pouvoir-là, globalement, travaille. Ce que je voulais simplement pointer par rapport à ça, à ce rapport institutionnel, c'est que lui aussi, on en a un petit peu parlé, évolue considérablement, et que le durcissement des logiques gestionnaires, pour les quelques travaux qu'on en a, que le durcissement des logiques gestionnaires peut avoir tendance à durcir ces rapports-là. Un certain nombre de travaux, en particulier autour de la question de la coopération du travail en équipe, hein, montrent que les logiques gestionnaires peuvent travailler à sens inverse, sens contraire, du discours de la coopération et du travail en équipe. Et donc là, on est aussi, hein, dans, finalement, dans une espèce d'incertitude de l'époque dans laquelle les rapports institutionnels sont particulièrement en tension. Trois dernières choses, et là, c'est plutôt les grands rapports sociaux, les rapports sociaux dits de sexe, dits de classe et dits de race. Simplement insister sur le fait, ce que je disais tout à l'heure, c'est que le fait d'avoir, dans le discours de l'État et des institutions, d'avoir organisé et représenté la société fonctionnellement autour de ces grands rapports institués, éducation, travail, institution, permet, c'est un peu ça qui organise le discours de la République, de dire, regardez, nous avons une société qui a globalement pacifié les rapports de pouvoir, qui du coup assure l'égalité, et donc qui peut occulter d'autres rapports sociaux. Et tout le discours de la critique, notamment des discriminations, c'est de dire, mais non seulement l'institution, les rapports de travail, etc., ne suffisent pas à écarter d'autres rapports de pouvoir, mais ils peuvent participer de les produire. Et on peut montrer comment, dans la manière dont l'institution fonctionne, comment dans les rapports institutionnels même, des rapports dits de sexe, de race, de classe se jouent. Une des illustrations qu'on a sur ces trois exemples-là, c'est qui accède au métier d'enseignant, qui accède au métier de chef d'établissement et à quel échelon, qui, etc. Hein, la distribution de ce travail. On le sait sur le plan des rapports de sexe. On le sait moins et avec des formes différentes sur les rapports dits de race, qui ont été travaillés plutôt sous l'image des enseignants issus de l'immigration. Mais on voit à un moment donné des modalités d'accès et des logiques finalement de représentation différentes dans le corps professionnel ou dans l'accès aux positions institutionnelles. On le voit aussi, et ça a été bien documenté, mais diversement selon ces trois grands rapports, on sait aussi que dans la manière dont l'école travaille, dans ce qu'elle produit, on en parlait à midi, elle produit des garçons, mais donc elle produit des filles aussi, elle produit du masculin et du féminin, pour le dire comme ça, elle produit aussi des classes sociales et des positions sociales transmises finalement à partir des représentations de ce que sont les parents. Elle produit aussi des assignations ethniques ou des identités ethniques. Je l'ai très rapidement posé tout à l'heure. C'est-à-dire, ce que je veux dire par là, je m'arrête sur ça, c'est que si on commence à regarder le fonctionnement de l'institution ou nos situations de travail à partir de cette lunette-là, on pourrait se dire que les rapports de pouvoir sous plusieurs formes sont omniprésents. Qui sont pas omniprésents seulement comme des accidents, comme des choses extérieures, mais comme un mode même de fonctionnement de nos institutions. Qu'à l'intérieur de ce mode de fonctionnement de nos institutions, tous les rapports sociaux ne sont pas reconnus de la même manière, ne sont pas reconnus avec la même légitimité, je pourrais dire. Certains font partie du programme institutionnel, quand d'autres, selon les époques, sont considérés comme n'ayant pas lieu d'être au sein de l'école. Si on les regarde pourtant du point de vue historique, comme ça commence à se faire, un petit peu systématiquement, on va se rendre compte que cette histoire perdure, qu'elle prend des formes relativement nouvelles, et en particulier sur les trois rapports sociaux dits de race, de classe, de sexe, on va se rendre compte qu'effectivement, ces rapports sociaux ne disparaissent pas, ils se transforment, ils se transforment aussi en même temps que l'institution évolue, ils prennent des formes plus ou moins subtiles, selon les époques, mais il continue finalement de travailler, de traverser nos situations. Et dernière chose que je voudrais, sur laquelle je voudrais revenir, c'est que ces rapports-là ne sont jamais indépendants les uns des autres. Ils sont même sans cesse articulés. Et je vais prendre un seul exemple. C'est la question du national. Le rôle que l'école joue du point de vue institutionnel et du discours de l'État-nation est un rôle crucial dans l'apprentissage du statut de national, du statut, du comportement attendu, etc., dans l'identification à la nation. Bien sûr, le discours aujourd'hui sur la nation n'est plus le même que celui de 1880, dans la bouche d'un Jules Ferry, etc. Mais cette question continue à exister. Or, cette question du national, elle est à l'articulation entre au moins deux logiques. C'est d'une part la question de l'État, et quel rôle joue l'institution scolaire comme institution modèle de l'État-nation, comme institution cruciale de l'État-nation, donc comme institution cruciale dans la production, effectivement, de l'identification nationale. Mais cette question est en même temps toujours partie liée. Je pense aux travaux de René Galisso, par exemple, sur la question du nationalisme, toujours lié à la question des théories ethnico-raciales et à la représentation, finalement, d'une partie ethnique de la nation. C'est-à-dire qu'au fond, cette idée de la nation, elle est articulée elle-même pour une partie à un rapport institué qui apparaît comme légitime dans le discours, et elle nous ramène toujours, elle nous relie toujours à une autre partie qui est jugée absolument illégitime, mais qu'elle ramène sous bien des modes, souvent en contrebande, j'ai envie de dire, et particulièrement dans les discours nationaux. Et ça, c'est activé, j'ai envie de dire, cette tension, à mon avis, elle est activée d'autant plus qu'effectivement, par rapport à ce qui était dit tout à l'heure, à ce qui était dit ce matin, on n'a pas une disparition du national au profit du local. Ouais. Je sais pas si c'est comme ça que tu voulais le formuler, que le formulait Anthony Taillefer ce matin. On n'a pas en tant que tel une disparition du local au profit national. On a bien une montée locale, on a bien une redistribution d'un certain nombre de dimensions opératoires, d'organisation, etc., de régulation, hein, entre le local et le national. Mais il y a en même temps un grand retour du discours national. Il y a un grand retour du discours national qui va puiser dans des schèmes ethniques de représentation de la nation. Tout le discours sur le communautarisme. Tout le discours sur toute l'émergence au sein de l'école du thème de l'antiracisme. Thème très récent et dont l'introduction même dans le débat scolaire ou dans le programme scolaire est très liée à une évolution du discours sur la nation. Etc. Alors il faudrait que je rentre plus dans les détails pour en faire la démonstration, mais pour dire ces schémas-là, ne serait-ce que là dans le discours de la représentation de l'institution, ces schémas-là ne cessent de s'articuler et pour une partie indécidable, hein, finalement, on ne peut pas cloisonner complètement ces grands schémas. Voilà un peu ce que je voulais poser, si vous voulez, en ouverture de notre discussion, ou ramener un petit peu dans la discussion avec cette invitation à regarder dans nos situations de travail comment opèrent ces rapports de pouvoir.